Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, je suis Barthélémy et je suis vraiment ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils et de devenir une meilleure version de vous-même. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités atypiques et remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, je rencontre Antoine Girard, qui m'a été recommandé par Romain, un super auditeur. J'ai tout de suite accroché avec son profil atypique. En effet, Antoine mélange alpinisme et parapente. Il réalise des expéditions complètement folles aux quatre coins du monde, dans lesquelles il grimpe les plus hauts sommets et s'envole pour des distances incroyables. Il nous explique son désir d'affronter ses peurs et la façon dont il adore se confronter à ses propres limites. Pour lui, réussir, ce n'est pas réussir une expédition, c'est réussir à se dépasser. Vous comprendrez vite qu'Antoine n'est pas un sportif ordinaire et qu'il est tout simplement passionné. Juste avant de commencer, j'ai deux messages à vous faire passer. Vous le savez sûrement, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller très loin, notamment aller chercher des sportifs très connus, mais aussi être relayé par des grands médias. On en parle très souvent dans le podcast, un exploit se fait toujours en équipe et grâce à un excellent public. Donc si vous aimez le podcast, pensez à en parler autour de vous. Mais surtout, pensez à le noter sur iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à trouver des invités et à faire connaître le podcast. Si vous l'écoutez sur Spotify, sachez que vous pouvez, depuis peu, très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. Vous pouvez aussi faire un screenshot de votre application. Je vous rappelle donc le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités incroyables. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui ressort. J'y partage mes bons plans, que ce soit sur de la santé, du sport, du matériel et de la préparation mentale. Allez, je vous en dis pas plus et je laisse place à mon invité du jour, Antoine Girard. Salut Antoine.
Bonjour.
Bah écoute, merci beaucoup de m'accueillir chez toi, à Valence, ou plutôt chez tes parents. On a fait un petit détour dans ton bureau. Je suis vraiment hyper ravi de te rencontrer parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer l'interview. J'ai vu énormément de belles images, j'ai vu des paysages que je connaissais même pas, des pays que j'avais jamais visités, j'ai vu même des panoramas et plein de choses incroyables. Donc, de toute façon, on en reparlera, mais je recommande vraiment les auditeurs à aller suivre un petit peu sur les réseaux parce que tu crées du contenu magnifique. Et du coup, j'ai plein de questions à te poser. Mais juste avant ce que j'ai un peu préparé, comme je te le disais, je commence toujours par une seule et même question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir d'aventure.
Et pour moi, l'aventure, c'est un peu complexe parce qu'il y a le sport et l'aventure. Et si je remonte le plus loin possible, mais en fait, au début, quand j'étais grimpeur, je faisais beaucoup d'escalade, donc escalade en salle, escalade sur les sites naturels, mais dans un milieu un peu aseptisé. Et mon premier vrai souvenir d'aventure, c'est quand les copains m'emmenaient en montagne. C'est-à-dire que on sort des chemins battus, on va sur des choses qui sont pas aseptisées, c'est le risque de l'alpinisme, la montagne. Et moi, j'ai toujours avancé sur des choses qui peuvent faire peur, hein, c'est d'escalade et tout ça, mais il n'y a pas de danger en réalité. Réel. Alors que là, en alpinisme, eh ben, on se retrouve mieux nulle part, mieux des montagnes, des glaciers, de la neige, et en ayant on se dit, on met un pied à côté, quasiment on est mort. Donc voilà, pour moi, ça a été la grande aventure. Alors c'était un tout petit, une petite sortie dans les écrins, sur les 4000 mètres, mais pour moi, c'est resté quelque chose qui m'a marqué et qui m'a dit, bah tiens, ça me fait peur, je reviendrai un jour.
C'est génial. Tu te souviens à quel âge c'était à peu près?
Je dirais 13 ans,
Ah
c'est
ouais.
loin, hein, mais.
Dans 13 ans, 4000 mètres, moi je crois qu'à 13 ans, je faisais mon premier 3000 déjà et j'étais déjà super content. Et c'était une bonne rando, quoi. Tu vois, c'était pas ça. Et ça t'a excité, du coup, tu parles du danger et de la peur de la mort, c'est ça qui t'a un peu attiré?
Peur de la mort, non, c'était parce que je savais que tout le monde va en montagne, on ne meurt pas forcément, mais c'est juste qu'on peut sentir le danger beaucoup plus que sur un mur en intérieur. Et disons que ça, c'est pas ce qui me fascinait, mais c'est quoi, mon adolescence, en fait, j'avais un petit peu peur on va dire, de la vie. Et tout ce qui me faisait peur, je l'acceptais pas. Donc pour contrer ça, tout ce qui me faisait peur, j'allais contre et je voulais surmonter ma peur.
D'accord, ok.
Donc l'idée, c'est ben voilà, la montagne m'a fait peur, je vais y aller et je vais dompter ma peur.
C'est incroyable ça. Et tu sais d'où ça vient, cette volonté de vouloir dompter sa peur?
Non, peut-être un manque de confiance en soi ou je sais pas, c'est peut-être... Non, difficile à dire.
Ok, c'est marrant. Bon, peut-être que les psychologues qui nous écoutent s'en donneront à cœur joie, mais c'est pas trop le sujet. Mais en tout cas, je suis assez subjugué parce que. Le fait de vaincre ses peurs, c'est quelque chose, tu vois, qu'on essaye de plus en plus d'apprendre aux enfants, qu'on essaye de plus en plus d'apprendre tôt. Est-ce que toi, justement, tu as des petits tips ou des petites routines que tu avais pour vaincre tes peurs, ou est-ce que tu avais des petits gris-gris?
Et non, malheureusement, à part prendre mon courage à deux mains et y aller, j'ai rien trouvé d'autre. Et moi, ça m'a vraiment omnibulé jusqu'à mes 20 ans, après plus du tout, mais jusque-là, ouais, je cherchais tous les moyens pour le faire, et parfois on n'y arrive pas. Et on met plusieurs années, des fois, à passer au-dessus.
Ouais, t'as des peurs comme ça qui t'ont duré plusieurs années à dompter?
Non, maximum un an ou 2 ans, mais il y en a certains, oui, qui ont beaucoup résisté.
Ok, tu pourrais nous dire lesquels?
Je sais pas, chose de toute bête qui peut faire rire, mais par exemple, quand j'étais petit, j'étais complètement phobique des araignées. Ça m'a mis au
D'accord.
moins 2 ans avant d'arriver, rien que de l'approcher. Alors maintenant, aucun souci, je peux prendre dans les mains. Bon, je suis pas fan non plus, hein, mais il n'y a plus une peur maladive.
D'accord, ok. Ah,
Mais
c'est
c'est des
dingue.
petites choses.
Ok, génial. Et du coup, tu t'es mis à l'alpinisme et avant, tu faisais de l'escalade en salle. À quel moment t'as commencé à te dire que c'était ça que tu voulais faire de ta vie? Et à quel moment tu t'as commencé à te dire, ah ouais, les expéditions, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de construire ma vie?
Alors en fait, je me suis jamais vraiment dit. Clairement, pour moi, c'est un loisir, c'est une passion, c'est envie d'y aller, tout ça. Et cette envie-là, je l'ai eue très tôt, en lisant pas mal de bouquins de littérature de l'époque, les Messner et compagnie, qui me faisaient
Ouais.
rêver dans le milieu alpin, soit dans l'Himalaya ou chez nous. Et ça m'a fait rêver en disant un jour, faut que j'y aille, faut que j'aille tester. Mais de là à en dire que quelque part je vais en vivre et je vais en faire ma vie, non, ça n'a jamais été. Même je l'ai fait très très tard, parce que pour moi c'était du loisir pendant presque 15 voire 20 ans.
Ouais.
Ça fait assez récemment où je dis, ben oui, finalement j'en fais ma vie.
Ok. T'as eu un déclic ou pour te dire j'en fais ma vie ou.
C'est pas du tout un déclic, parce que j'ai plutôt fui, c'est juste l'envie d'en faire de toujours plus. Quand on revient d'expé, quand on rentre, la première chose qu'on pense, c'est à repartir. Et j'ai enchaîné mes expéditions qui ont bien marché, où les sponsors, ils venaient d'eux-mêmes et c'est pas forcément moi qui ai démarché. Et en fait, le fait d'avoir des sponsors qui donnent un peu d'argent permet de repartir plus tôt. Et à force de partir, à un moment, on n'a plus le temps d'aller travailler, donc faire autre chose. Donc partir en expé.
Ouais. Du coup, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, toi, tu as une discipline qui est assez particulière parce qu'en fait, tu mélanges l'alpinisme et le parapente. À quel âge tu as découvert le parapente et comment est-ce que tu t'en es venu à mélanger ces deux disciplines?
Alors après, pour pouvoir y répondre, il faut revenir un petit peu en arrière, quoi, sur
Ouais.
ma, entre guillemets, carrière, où j'ai fait plein de sports, mais les sports principaux, c'était l'escalade de compétition pendant des années, où je passais en alpinisme, où j'ai fait pas mal d'expéditions en Himalaya, un peu partout dans le monde. Et à la fin de cette période d'alpinisme, j'ai un copain qui est venu me voir pour me dire, ben voilà, moi je veux créer le parapente le plus léger du monde, est-ce que tu veux le tester? Le tester. Et pour le tester, oui, bien sûr, mais surtout pour faire une publicité, l'idée, c'était de redescendre dans 8000 en parapente. Moi, je ne connaissais pas le parapente du tout, donc je me suis mis un an à voler presque tous les jours pour redescendre, c'était le Broad Peak à l'époque, du sommet, et j'ai appris le parapente comme ça. Et ça m'a plu, et derrière, j'ai tout doucement laissé tomber l'alpinisme pour aller au parapente, et j'ai fait bah, pas mal d'années quand même là-dedans, et tout doucement, j'ai l'impression d'être arrivé un petit peu au bout de ce que je pouvais faire en parapente, et ben, j'ai envie de mixer un peu tout ce que j'ai fait. Donc mixer l'escalade, l'alpinisme et le parapente.
D'accord. Et c'était en quelle année, du coup, ce challenge?
Alors moi j'ai commencé le parapente le tout début janvier 2007
D'accord.
et je suis alors l'expédition 2007 sur le Broad Peak n'a pas eu lieu, c'était repoussé en 2008 et je l'ai tenté en 2008 et 2009.
D'accord.
Malheureusement on n'a pas pu faire le sommet donc j'ai volé de là-haut à aux environs un peu plus de 7000 mètres mais pas du sommet.
D'accord, ok. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé en 2008 et en 2009?
2008 alors oui soit 2008 2009 2008 en fait j'ai fait une crise d'appendicite
À 8000 mètres d'altitude,
à
quoi.
8 mètres d'altitude, j'étais
Wow.
avec une copine, on est partis tous les deux pour enchaîner le Broad Peak G1 G2.
Ouais.
Et bah, cette copine, c'est Elisabeth Revol, que beaucoup de gens connaissent en milieu d'alpinisme. On est partis tous les deux, et en fait, la première semaine, je fais une crise d'appendicite. On n'arrive qu'à s'acclimater, on monte à 7000, et puis bah, là, moi je suis évacué, c'était assez compliqué. Ça m'a bien marqué dans la vie parce que j'ai failli en fait y rester quelque part parce que. Si on est au pied sur un 8000, si on a une maladie ben, comme l'appendicite, normalement on meurt. Et si on n'est pas évacué assez rapidement, voilà, ça peut être problématique. Et moi j'ai mis 16 jours entre le début de l'appendicite et l'opération, donc on a eu assez peur.
Ah ouais, t'as dû morfler, non? Parce que ça fait hyper mal, non?
Mentalement, oui. Non, physiquement, non. J'avais beaucoup de médicaments. Par contre, on avait des médecins sur place, donc ils me donnaient quoi, des antibiotiques et des antidouleurs. Donc ça, c'était pas le problème. C'était plutôt ben, qu'en fait, quand on attend les secours qui peuvent pas venir à cause du mauvais temps. Le temps est très très long.
Tu te dis quoi d'ailleurs à ce moment-là?
Et ben pas grand-chose, hein. On ne peut pas perdre espoir.
Ouais.
Moi je sais qu'avec les médecins qui j'étais, ils me donnaient une espérance de vie de 10 jours. Donc je dis, oh, mais t'as le temps, c'est bon, ça va se passer. Puis on arrive au 11e, 12e, 13e jour. Et là, au niveau mental, ça commence à être dur. Où les médecins me disaient, ben, ça serait bien que tu appelles ta famille, que tu leur dises que voilà, que t'es pas bien, que. Ils me préparaient en fait à qu'il y ait une chance que je revienne pas, quoi. Et donc oui, non, ça m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai fait après mon opération et mon retour en France, pendant plusieurs mois, je me réveillais au milieu de la nuit en transpirant, en me disant, c'est mes dernières heures, quoi. Si là-bas, tu veux pas dormir, tu risques de mourir, tu dis, je vais en profiter. Quoi, tu veux profiter des instants. Et pendant plusieurs mois, je me suis réveillé au milieu de la nuit en cauchemar, et voilà, ça a mis du temps à passer.
C'est dingue.
Et voilà, et après, pour 2009, bah, j'étais encore avec Elisabeth, on partait sur un projet Broad Peak K2, mais là, la météo nous a cloué au sol et on n'a fait aucun sommet, on est passé un mois dans la tente à attendre le beau temps et on est parti, si on a eu ras-le-bol.
Ok, tu
C'est le problème
m'étonnes.
de la montagne.
Ouais. Donc là, ça fait enfin 2 ans de suite, tu tentes une expédition. À chaque fois, ça se solde du coup un peu par beaucoup d'apprentissage. Certains pourraient apprendre ça de l'échec. Qu'est-ce que tu te dis pour repartir la troisième fois? Comment est-ce que tu vas chercher un peu les ressources mentales pour dire allez, je le retente quoi?
Alors après, les échecs, j'en ai beaucoup plus que ça. Sur les 8000, en fait, j'en ai fait même aucun. Parce que je suis allé sur le Shoyu, où j'avais abandonné à 7007, je crois. J'ai
fait en 2004, c'est ça.
2004, ouais. Le K2 en 2006 en solitaire, où j'ai abandonné un peu plus de 8000, je ne sais pas combien. Puis après, il y a eu deux fois le Broad Peak encore, voilà, où c'est échec. Mais après, c'est très personnel l'échec. C'est ouais. Où est l'échec ? Pour moi, si je vais, par exemple, j'ai fait une expédition, et puis j'y vais, au bout de 15 jours, je fais mon expédition, j'ai fini, je rentre, c'est un échec. Je ne suis pas allé au bout de moi-même. Moi, j'y vais pour me découvrir et me dépasser. Par contre, faire une expé où il n'y a pas le sommet, mais je suis allé au bout de moi-même, je suis découvert, pour moi, c'est une réussite.
Ouais.
Pour moi, la réussite idéale, je veux dire, vraiment, je serais satisfait de moi, c'est arriver au bout de l'expé, mais être au bout de moi-même en me disant, je n'aurais pas pu faire plus, je l'ai fait et je reviens.
Ouais.
Faire un sommet trop facile, non, ça n'a aucun intérêt. Ouais. C'est pour ça que je dis que ça dépend où est l'échec, où est la réussite. Voilà, moi, par exemple, sur le K2, je suis monté à plus de 8000, j'étais seul, sur plusieurs camps, j'étais le premier tout le temps en haut, voilà, j'ai réouvert la voie, c'est une voie qui est parcourue, mais j'étais le premier de l'année à aller dessus sur toute une partie. Moi, j'étais hyper satisfait, j'étais hyper content. Pas fait le sommet, certes, mais moi, je me suis fait plaisir, je suis au bout de moi-même, j'adorais.
Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, je trouve, et c'est une très belle façon de voir les choses, de dire que peu importe, enfin, la réussite, c'est d'aller au bout de soi-même et pas forcément au bout de la réussite physique, si tu veux, de... En tout cas, donc, je trouve ça hyper inspirant. Donc,
Mais c'est vrai uniquement si on travaille, quoi, si on le fait les choses pour soi et pas pour des partenaires, des sponsors ou tout ça. Parce qu'eux, ce qu'ils attendent, c'est que tu arrives en haut, que tu fasses une réussite, qu'on parle de toi. Pour moi, c'était une réussite parce que j'ai toujours fait les choses pour moi et pour mon plaisir. Et moi, mon plaisir, je sais où il est et je vais le chercher.
Ouais, mais tu fais bien de le rappeler en tout cas. Parce que, effectivement, si on fait tous du sport, je pense que c'est pour soi avant tout, pour prendre un maximum de plaisir plutôt que de. Effectivement de le faire pour les autres. T'as mentionné des sponsors, t'en avais déjà quelques-uns à l'époque?
Très peu.
Ouais, très peu. Bon, on reviendra sur le sujet après, mais moi je veux savoir si dans toute cette période un petit peu où effectivement tu effectivement on pourrait dire que c'est des échecs, est-ce que t'as eu des moments de doute ou est-ce que t'as eu des moments où justement tu t'es dit peut-être que là j'ai frôlé la mort, est-ce que finalement je suis pas un petit peu trop loin dans l'aventure et dans l'expédition?
Alors moi, quoi, chacun évolue comme il veut, comme il entend. Moi c'était quoi, si je fais toutes ces expéditions c'est pour m'explorer moi, mes capacités, mais ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller. Et évidemment à chaque fois on avance, on va de plus en plus loin jusqu'à se dire ah là c'est limite, là c'est dangereux.
Ouais.
Et je sais que quand on fait des expéditions, quoi, personnellement, quand je fais des expéditions, à chaque fois, c'est pour aller plus loin, voir ce qu'il y a après. Et dès que je sens que je suis au bout, qu'il y a vraiment du danger, j'arrête. C'est pour ça que typiquement, l'alpinisme, à un moment, je dis, je suis allé au bout, j'ai trop vu la mort, je sais que si je continue, c'est moi qui vais y passer, je change et je suis passé au parapente. Okay. Et parapente, je vais au maximum, quand je suis au bout, ben là, je passe un mix entre parapente et l'alpinisme.
Okay.
Et c'est des choses nouvelles. Moi, j'ai besoin de nouveau et d'aller voir des choses nouvelles.
Okay. T'as eu des petits accidents ou t'as frôlé la catastrophe des fois en parapente? Parce que tu dis que t'es allé au bout, c'est peut-être...
Frôler la mort, oui et non. Moi, j'essaie toujours de garder des marges. Tout ce que je fais, je garde une marge. Et comme tous les sports, entre guillemets, à risque, il y a des aléas. D'accord. Et ces aléas mangent cette marge. Et quand je sens que même avec les marges que je prends, que la marge n'existe plus, je me dis que là, j'ai frôlé la mort. Je ne l'ai pas vue.
Ouais.
Mais je me dis... Mais là, j'avais plus de marge du tout. Et là, pour moi, c'est trop loin. Parce qu'on a besoin de ce tapis de confort. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu de vraie frayeur en parapente où je dis, là, c'est les dernières secondes. Mais plusieurs fois, j'ai mangé cette marge et pour moi, c'est trop loin.
D'accord. Et du coup, là, en tapant ton nom un petit peu sur Google, j'ai vu que tu étais l'homme qui était allé le plus haut en parapente. Que tu avais ton nom inscrit au Guinness. Est-ce que quand tu avais prévu de faire l'expédition, c'était un record que tu cherchais ou c'était quelque chose de subsidiaire qui est venu avec l'expé finalement et...
Alors, je dirais oui et non. Ouais. Je suis parti dans cette expédition-là. Alors, c'était ce qu'on appelle un vol bivouac au Pakistan. Je partais avec mon parapente, ma tente et faire 1200 km au Pakistan. Je l'ai organisé de manière que je tourne autour des 5 sommets de 8000 mètres du Pakistan.
Ouais.
Parce qu'au fond de moi, j'étais alpiniste et je rêve de survoler un 8000. C'était vraiment... personne n'a fait. Je ne sais même pas si physiquement un parapente pouvait monter là-haut. Redescendre, oui, mais monter, on ne sait pas. Et pour moi, c'était un rêve. Donc, y aller. Par contre... À aucun moment j'ai pensé, bah tiens, ça va me faire permettre de gagner, de battre le record du monde ou de quoi que ce soit. Pour moi, ça me passait vraiment au-dessus. Moi, ouais. Le but, oui, je voulais survoler un 8000. Donc oui, j'organisais comme ça, mais c'était un rêve enfoui et j'y croyais pas du tout en allant dedans. Ouais. J'ai provoqué la chance, mais j'y croyais pas du tout.
Et d'où elle t'est venue l'idée de cette expédition de vouloir faire 5-8000 en l'espace de quoi, 12 jours, 20 jours?
Ouais, j'ai mis 20 jours là pour le faire.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne aux auditeurs? En gros, tu pars avec ta tente et ton...
Voilà,
et
je parle de la nourriture, souvent l'autonomie, ouais. Suivant les expéditions, entre 10 et 20 jours d'autonomie de nourriture, ouais. Ma tente. Et en fait, je suis autonome au niveau électricité parce que j'ai des panneaux solaires et tout ce que l'on veut. Et je reste 20 jours dans les montagnes. Là, typiquement, bah, j'ai des sacs qui sont très lourds, hein, qui font 30-35 kilos parce qu'il faut porter le parapente, la tente, de quoi survivre, de quoi réparer les choses parce qu'on est isolé de tout. Mmh. Et je suis en itinérance et on peut faire de quelques kilomètres par jour si la météo est mauvaise jusqu'à 200 kilomètres par jour. Donc ça peut aller très vite. Là, j'avais prévu 1200 kilomètres. Et voilà, j'aime beaucoup faire ça, je l'ai fait un peu partout dans le monde, en fait c'est ma façon de voyager. Et là, ben, l'idée, ben, voilà, je suis simplement parti autour de ces 5-8 000.
Ouais. Et comment est-ce que tu sais où est-ce que tu vas te poser parce que c'est des milieux assez hostiles généralement que tu fais. Tu sais, quand tu décolles, tu sais jamais quand est-ce que tu vas t'arrêter.
Alors, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Oui et non, c'est je sais pas où je vais aller exactement, mais par contre, chaque projet, en fait, ce qu'on voit, nous, c'est que le sommet de l'iceberg. Il y a quasiment un an de préparation par projet, où c'est de l'étude de cartes au maximum, et dans la tête, je sais exactement, à quelque chose près, où va aller mon parcours, et après, sur ce parcours-là, je connais un petit peu, j'ai analysé toutes les montagnes qui, théoriquement, pourraient poser, ce que je vois, si elles sont plus ou moins raides, et après, c'est à l'œil. C'est-à-dire, quand je suis dessus, c'est à l'œil, je sais dans quelle vallée il faut pas aller, mais à 5 ou 10 kilomètres près, je sais pas du tout où je vais aller.
Ok, donc pour une expé, tu mets un an à étudier les cartes et à préparer le terrain, on va dire.
Alors, il n'y a pas que ça dedans, il y a que voir la faisabilité du projet, analyse la météo, des vents, de prendre des avis locaux, de prendre faire de la recherche d'informations, avoir les autorisations. Et oui, quand même, le plus gros travail, ça reste les cartes.
Ok. Et du coup, ce qui peut rendre le projet impossible, c'est des vents trop forts ou des...
Il peut y avoir la météo en Amérique du Sud, j'étais confronté à ça. Okay. Toute la Patagonie ou entre des vents extrêmement violents et des forêts à perte de vue où il n'y a pas un seul mètre carré pour poser le parapente, donc on peut ni décoller ni se poser, ben on peut pas y aller. La météo, après j'ai beaucoup de problèmes d'autorisation parce que moi j'aime bien quoi, le parapente c'est la montagne et la plupart des chaînes de montagne sont à la frontière de pays. Résultat, il faut avoir l'autorisation de passer d'un pays à l'autre par les montagnes et c'est très rare que ça ait lieu.
D'accord. T'as déjà eu des problèmes à cause de ça d'ailleurs ou... Parce que j'ai vu que t'avais fait des pays très exotiques, pas toujours des démocraties.
C'est pas tout le temps facile. Ouais. Il peut y avoir des petits soucis, ouais. Après, il faut faire avec.
Ok. Okay. Et dans une expédition comme ça, tu nous as dit que tu prenais 35 kilos de matériel. Il y a quoi concrètement dans ton sac?
Alors, il y a beaucoup de choses. Ça dépend vraiment de l'expédition. Du type, voilà, parce que par exemple, la traversée de la cordillère des Andes, donc l'Amérique du Sud où c'est du désert, là, ce qui pèse très lourd dans le sac, c'est l'eau. En fait, tu risques de pas croiser d'eau pendant des jours et des jours. Les peu d'eau que tu trouves, c'est des rivières, et ces rivières, elles sont quasiment pas toutes, hein, mais une grosse partie ont une mine dessus, donc l'eau est polluée par les métaux lourds, donc tu peux pas la boire. Donc on avait souvent 5 à 8 kilos d'eau tous les jours à porter, au cas où.
Okay.
Donc ça c'est l'essentiel du poids. Après des pays comme je sais pas le Pakistan, la première année c'était l'oxygène, j'avais 6 kilos d'oxygène au cas où, je l'ai jamais utilisé. La seconde fois je suis parti au Pakistan, j'ai pas repris l'oxygène. Mais la seconde fois je suis allé en alpinisme, donc j'avais tout le matériel d'alpinisme. Après suivant, j'essaye de faire en sorte que mon sac dépasse jamais 35 kilos parce qu'après c'est bon, faut voir quand même que je marche souvent 1000 à 2000 mètres de dénivelé pour aller trouver un décollage. Et donc, au-delà de 35 kilos, moi, je galère trop. Ouais. Et donc, je fais en sorte de me prendre la nourriture qui complète ces 35 kilos. C'est-à-dire que si je vais dans un pays où je sais que j'ai un sac qui est énorme, je vais prendre moins de nourriture. Je vais redescendre tous les 5 ou 10 jours à chercher la nourriture. Ouais. Par exemple, à traverser la Nouvelle-Zélande, où j'avais quasiment rien, j'ai pris 20 jours d'autonomie. Parce que j'avais que la nourriture à prendre, le reste était léger. Et j'avais un sac de 27-28 kilos uniquement. Okay. Bon, après, on parle de nourriture, mais on mange quasiment pas.
C'est vrai.
Par exemple, la Nouvelle-Zélande, j'avais 250 grammes de nourriture par jour.
C'est rien du tout.
C'est, je pensais que c'était réalisable, et avec un peu de recul, pas du tout. J'ai perdu la première semaine, j'ai dû perdre 7 ou 8 kilos. Okay. Après, ça stabilise le poids, mais l'énergie ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'on était deux, j'étais avec Benoît, on partait dans la traversée. Le matin, on se levait, on essayait de ne pas manger. Dès qu'on marchait, qu'on tombait à genoux, qu'on n'avait plus à suivre l'autre, on mangeait juste une cuillère de nourriture, et jusqu'à que ça rebloque, et on espérait que ça nous tienne jusqu'au soir.
Okay.
C'était un enfer, je n'en ferai jamais. Maintenant, je me suis stabilisé à 400 grammes de nourriture par jour, et ouais. 400 grammes, ça... les premiers jours d'expé, on n'a pas faim, parce qu'on a un peu des réserves d'avant, mais c'est ouais. vrai qu'au bout de 15-20 jours, c'est passé.
Ouais.
Mais ça fait une moyenne qui passe bien, et au moins, je sais que j'ai 400 grammes, je pars 10 jours, hop, 4 kilos, parfait.
Et ça représente combien de calories et c'est quoi, c'est du lyophilisé que tu prends ou...
Alors c'est rare, je prends du lyophilisé, question de coût souvent, puis c'est pas forcément le plus énergétique, enfin, ouais. ça dépend, hein, c'est bien meilleur, hein, mais moi je me suis basé sur quelque chose qui est tout simple, quand je pars maximum 20 jours, parce qu'après c'est un peu lourd, c'est la semoule.
D'accord.
En okay. fait la semoule, on a besoin de l'eau. On peut prendre de l'eau froide, parce que souvent, elle a le gaz aussi pour cuisiner.
Ouais,
et le fait d'avoir de la semoule, si on est en panne de gaz, on met de l'eau froide, ça marche. Ouais. Et sinon, le seul gaz qu'on utilise, pour faire un peu d'eau chaude, mettre dans la semoule, tu n'utilises pas grand-chose, je fais une fois par jour. Après, tu vas me dire, bah ouais, ça n'a pas de goût. Certes, alors ce qu'on fait pour compenser un peu ce problème-là, c'est qu'on prépare des sachets de semoule tout prêt. Donc, on sait que c'est une dose pour un jour. Dans, on met un peu de sel. On prend une soupe genre de tomate lyophilisée qu'on met dedans ou on met n'importe quoi comme soupe. Ça donne du goût simplement et ça nous permet de tenir. De toute façon, quand t'as faim, tu manges. Tu t'en fous du goût.
C'est clair. Ah, écoute, c'est excellent. En tout cas, je voyais pas la semoule de ce œil-là, mais effectivement, c'est hyper intéressant en termes ratio poids et calories.
Voilà, volume à tous les niveaux, c'est intéressant.
Ouais. Ok, super cool. Qu'est-ce que tu ressens quand t'es en l'air et que t'es en train de voler sur une crête? Parce qu'on voit dans tes vidéos que t'es des fois tu passes à quelques centimètres d'une crête. Tu ressens quoi à ces moments-là?
C'est dur de dire à un moment particulier. Moi, souvent, si je m'approche des crêtes et tout ça, c'est simplement parce que c'est beau. Hein. Moi, je suis alpiniste, j'aime bien voir le rocher de près et de le voir. Ouais. Après... c'est plutôt une sensation globale, c'est-à-dire que moi, quand je pars dans mes expés, je me dis, ben voilà, j'ai mon parapente, ma tente, et je peux aller où je veux. Je vais faire 1000 bornes, 2000 km, j'ai fait jusqu'à 3000 km dans un voyage.
Ouais.
Tu es libre, t'as aucune attache, t'as rien. L'énergie, c'est toi qui l'as fait avec ton énergie solaire, tu bouges, t'as la nourriture, voilà, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est cette sensation de liberté que je recherche. Et après, ben, dans le vol, être près d'une crête ou tout ça, pour moi, tu vois quelque chose qui est beau, tu y vas, tu t'en approches. C'est, ouais. c'est global, c'est pas juste cette crête-là, ou c'est juste, voilà, j'ai envie de faire ça, je vais le faire, je connais l'interdit. Pour moi, c'est la notion de liberté pure.
Ok. Et par rapport à la liberté, je voulais te... Enfin, il y a une question que je me posais, parce que moi, j'ai des parents, par exemple, un peu craintifs. Et tu vois, quand tu pars tout seul sur des grosses expéditions de plusieurs semaines, c'est quand même assez dangereux. Il n'y a personne dans ton entourage qui a essayé de te retenir ou qui s'inquiète pour toi, et qu'est-ce que tu leur réponds?
Ah si, ça a été dur, très dur au début pour mes parents. Ouais. Surtout que moi, les premières expéditions, je refusais d'avoir un contact quel qu'il soit, pas téléphone satellite ou quoi que ce soit. Donc il n'y avait aucun message. Maintenant, je prends une petite balise juste pour envoyer un texto de temps en temps pour dire tout va bien. Et non, c'était dur. Oui, bien sûr, ils n'ont pas envie, mais ils ne veulent pas non plus brider ma vie ou de toute façon, ça ne servait à rien de m'interdire. Moi, je serais parti. Et ouais. ça, ils l'ont très bien compris. Donc, oui, ils m'ont fait comprendre que ça allait blesser. C'était difficile pour eux, que c'était très long, que tout ça, mais ils ne sont jamais opposés en disant en déshérite ou tu rentres plus chez nous si tu si t'y vas. Voilà, ils ont accepté et ils savaient qu'il fallait faire avec et voilà, il fallait travailler ensemble là-dessus.
Ok. Tu as eu des petits arguments ou des choses qui ont.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Permis de faire avancer le débat en ta faveur, hormis cette envie de liberté.
Juste que je pense que mes parents, mes proches et tout ça savent ce que c'est que la liberté, savent ce que c'est que d'aller au bout de ses rêves et qu'on ne peut pas l'enlever. Donc il faut prendre sur soi et l'accepter. Et tu sens très vite chez quelqu'un si dans la voix tu peux parler, ça ne changera rien. Ouais. Et ça, on le ressent et ça ne sert à rien d'aller contre dans ce cas-là.
Ouais, c'est clair.
Et au contraire, il faut encourager pour que ça se passe mieux.
Ouais, c'est clair. Tu viens de mentionner les rêves. T'en as, toi ?
Mais j'ai que des rêves. Tout ce que je fais, ce sont des rêves enfouis que j'ai envie de réaliser. Et des rêves, j'en ai encore plein. Et je pense que la vie ne suffit pas pour tous les faire.
Okay. C'est quoi le prochain, du coup, que tu vas réaliser ?
Prochain petit rêve ou gros rêve ?
Allez, les deux. Le petit rêve dans les 6-12 mois qui arrivent et gros rêve...
Alors le problème, c'est que c'est pas évident de parler de ça parce que dans les prochains petits rêves entre guillemets, quoi, c'est-à-dire les prochains projets, c'est des choses qui sont un peu inédites, qui sont un peu nouvelles, ouais. Et c'est pas évident d'en parler tant que c'est pas fait parce qu'on n'a pas forcément envie de se faire prendre l'idée. Okay. Mais voilà, ça sera dans les montagnes et plus le temps passe, plus j'ai envie d'être multisport, donc ça va être un mixte un peu nouveau là-dedans.
D'accord, ok, génial. Bon, en tout cas, bah, du coup, j'encourage les auditeurs à te suivre sur les réseaux sociaux hein, pour voir un petit peu ce que tu nous réserves. D'ailleurs, tu vois, quand je regarde un petit peu ton contenu et quand je regarde tes vidéos, je me dis, mais putain, il a une vie de dingue, il fait sa passion tout le temps, il est toujours en voyage. Là, moi, en ce moment, je suis à Paris, j'en peux plus, j'ai la bougeotte. Est-ce que tu vis de ta passion et comment est-ce que tu t'organises pour te rémunérer ?
Alors, comment je m'organise pour me rémunérer ? Ben, c'est là que c'est compliqué. Pour moi, tu as deux choses dans la vie. Soit tu travailles, tu as plein de sous, tu fais ce que tu veux, mais tu n'as pas de temps. Soit tu dis, ben, je travaille moins, j'ai moins de sous, mais beaucoup de temps. Et au final, moi, j'ai pris la notion de, ben ouais, ben, je ne veux pas travailler plus, je ne veux pas plus d'argent, mais comment je peux en dépenser moins ? Donc, j'ai tout orienté sur comment moins dépenser. Ben, je sais pas, l'année, moi j'ai un énorme potager chez moi, je vis à la campagne, je me fais à manger pour l'année avec le potager. J'ai une très vieille voiture qui roule à peine, voilà, ma maison je l'ai construite et je dépense pas d'argent et j'arrive plus ou moins à voyager. Après moi c'est tout récent où entre guillemets je survis avec les partenaires pour financer mes expéditions. Voilà, je pourrais en chercher plus et tout ça, mais je sais pas, je suis fainéant, c'est que ce que j'aime c'est mes expéditions. Donc, ouais. Dès que j'ai collecté assez d'argent pour partir, je pars. Ouais. J'y vais. Je vais pas en chercher d'autres. Voilà. Moi, je me rappelle l'avant-dernière expé au Pakistan. Je suis retrouvé. J'étais donc au Pakistan, un pays pauvre, etc. Moi, dans les hôtels, je dormais avec ma tante dans les jardins des hôtels. Je leur demandais. Et les gens me demandaient, mais comment ça se fait que tu dormes là-dedans ? Bah, j'ai pas laissé vous payer l'hôtel. Moi, je préfère partir 2 mois que partir 1 mois à l'hôtel. Ouais. Même si les pays pauvres, peut-être c'est 10 euros par jour ou 15 euros par jour, mais ça me permettait de rester 2 mois là-bas.
Ouais, c'est génial. Du coup, t'as campé dans des, t'as campé dans des jardins d'hôtel.
Tout le temps.
Et ils te laissaient prendre des douches ou non
même Ouais, non, tu payes, mais souvent, quand c'est autorisé, t'en vois rarement, mais tu leur poses la question, ils disent ouais, pas de souci, t'as accès au sanitaire, t'as éventuellement une petite cuisine. Donc ouais, c'est pas mal.
Ah, c'est génial, faut absolument que je tente. et ouais, tu t'es jamais dit, allez, je vais bosser un an, je vais lever des fonds pendant un an ou deux, et comme ça, bah, je peux partir encore plus longtemps. C'est peut-être ce que tu es en train de préparer en ce moment.
Oui et non. Sur du court terme, si on regarde juste le passé, j'ai un projet, je veux y aller. Donc ouais. Soit c'était bien avant, j'allais travailler, je trouvais des petits travaux, ou quand j'étais à la fac, parce que je suis enseignant à l'université, j'allais faire des heures sup pour me payer, j'avais mon argent, je partais. Okay. Maintenant, j'ai des projets, bah, j'essaye de démarcher un petit peu des partenaires, et dès que j'ai atteint juste la somme qu'il me faut, hop, je pars, moi je peux pas attendre. Si j'ai un projet, oui, qui dure 10 ans, oui, je vais travailler pour avoir 10 ans d'argent devant moi, mais il faudrait travailler tellement longtemps que je suis pas sûr que... d'être capable de tenir, travailler aussi longtemps.
Ouais, tu m'étonnes. Et là, récemment, du coup, avec les partenaires, qu'est-ce qu'eux, ils attendent de toi en échange ? Typiquement, tu me parlais juste hors antenne, tu me racontais un petit peu comment fonctionnaient les films. Donc toi, tu tournes énormément d'images pour tes partenaires, c'est ça?
Oui. Ouais. Oui, bah en fait, un partenariat, c'est pas une boîte qui vient, qui donne de l'argent, qui dit bah, va te faire plaisir, faire ton expé ou quoi que ce soit. C'est ça. C'est de la publicité, purement. Ouais. C'est-à-dire que ben une personne qui voit la marque, tu gagnes quoi. On va dire que la notion de base, c'est la publicité télé. Par exemple, une pub aux 20h, ça coûte je sais pas combien de millions d'euros, il y a tant de personnes qui le voient, et avec ça, on peut dire, ben, une personne qui voit la marque, c'est 0,0001 centime, par exemple. Ouais. Et ben voilà, si un sponsor donne, par exemple, 10 000 euros, il faut avoir tant de millions de vues pour aller en face. Parce qu'un sponsor va pas donner, il va essayer de l'argent, c'est pour que la marque soit visible, donc ouais. S'il faut, c'est la visibilité. Donc voilà, c'est juste un échange de visibilité contre de l'argent.
Et toi, t'as pas eu peur de tomber un peu dans cette course à la visibilité, justement? Parce que le jeu des réseaux sociaux, c'est un jeu un petit peu compliqué. Tu vois, si demain Facebook il décide de fermer ta page, t'es cuit entre guillemets, tu vois. Donc, c'est pas un jeu qui te fait peur ou c'est pas un jeu qui te...
Alors moi, je me suis un peu ôté tous ces stress parce qu'effectivement, on est sportif, même on se blesse, on fait plus rien la communication marche plus, on fait pas assez de résultats, on a plein de choses qui peuvent arriver qui mettent beaucoup de pression et de stress. Moi, j'ai enlevé ce système-là juste en comme je disais, j'étais enseignant à l'université. Je garde encore quelques heures, un petit pied à la fac où je travaille. Bon, j'avoue uniquement 3 mois par an à l'université. C'est la période où je fais mes conférences, où je fais mes films, où j'avance. Voilà, donc le jour où j'arrête mon boulot de sportif, je reviens bosser à l'université. Okay. Donc à partir de là, j'ai plus de stress. Tant que ça fonctionne, je le fais, je le continue. J'espère faire toute ma vie et j'y compte bien, parce que ça marche de mieux en mieux. Mais en cas de ce souci, j'ai ça. Okay. Et c'est surtout, je pense, pour le mental que ça aide.
Ouais, ah ouais, bah c'est clair. Bah faut aussi rester un petit peu peut-être connecté et pas complètement. Complètement se déconnecter de la vie réelle et de savoir ce qui peut se passer. Et même toi, j'imagine que ça doit des fois t'aider peut-être dans des discussions avec des sponsors ou dans ta vie de tous les jours, quoi, tout simplement de pas être complètement déconnecté, quoi. Mais je voulais un peu revenir sur tes expéditions, notamment sur le fait que j'avais vu que tu avais été élu aventurier de l'année par National Geographic. Ça a changé beaucoup de choses pour toi?
Alors, j'ai été nominé, je n'ai pas été élu. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, le National Geographic, il sélectionne les 10 plus gros aventuriers que eux déterminent de l'année. Ouais. Et après, entre guillemets, ils font l'élu, c'est le public qui vote. Ouais. Parce qu'eux, ils disent, c'est les 10 meilleurs, et en fait, ça peut participer le public, ils font quelqu'un. Ça a changé quelque chose? Sincèrement, non. Ouais. Ce qui a changé, éventuellement, si moi je vois quelque chose, c'est uniquement quand je me présente et que je démarche un sponsor. Avant, t'envoyais un mail, t'avais pas de réponse. Maintenant, dans ton mail, tu dis nominé aventurier de l'année, t'as une réponse négative, mais t'as une réponse. Okay. C'est déjà pas mal.
Et c'était déjà arrivé du coup d'avoir des sponsors qui viennent te voir en te proposant des destinations, ou est-ce que c'est toi qui les choisis et...
Non, moi je décide tout seul. Ouais. Je vis sur mes rêves et c'est pas quelqu'un qui décidera de ma vie. Donc moi je décide de faire ça. Ça m'est jamais arrivé qu'un sponsor me vienne en disant je veux que tu ailles là-bas, mais par contre clairement j'ai un sponsor qui me dit on a un projet là-bas qui va durer 10 jours pour faire telle chose, si c'est une destination qui me plaît, ah oui j'irai, ça y a pas de souci. Le projet est tout fait, parce qu'en fait faut voir qu'entre un projet qui est tout fait, qu'on me dit viens avec nous, quand on m'invite à venir. Ouais. C'est génial parce que ce qu'on voit uniquement dans l'expédition, c'est le sommet de l'iceberg, mais c'est la préparation qui est avant qui est monstrueuse. Ouais. Donc si un sponsor me dit va dans tel pays, mais démerde-toi, faire toute la préparation et passer un an quasiment, alors c'est pas un an de suite, hein, c'est un mois, quand j'ai un mois devant moi je travaille un mois et ça cumule, et au bout d'un moment il me faut 2-3 ans pour préparer une expé. Ouais. Moi je le ferai pas pour un sponsor. Par contre, si tout est mâché et que j'ai plus qu'à venir et me faire plaisir, entre guillemets, oui, si le pays me plaît, j'irai.
Ok.
Mais on ne m'imposera pas.
Et c'est quoi, tu peux nous raconter un petit peu ta dernière expé?
Dernière expé, ça dépend laquelle. Les grosses ou les petites?
La dernière grosse, allez.
Dernière grosse, tu veux parler du... c'était quoi le Pakistan ou Bulgarie, c'est laquelle?
La Bulgarie, ouais.
Ah, la Bulgarie, ouais. Pour moi, c'est une petite expé, c'est pour ça que je te demandais. Mais la Bulgarie, pour moi, c'était un tout nouveau trip. Ou alors, c'est toujours pareil, le vol bivouac, on part juste pour traverser le pays. On voulait faire, je sais plus, 5 ou 600 km. Au final, on en a fait un petit peu moins.
Tu l'as fait en combien de temps
Ça dépend que de la météo. Ouais. Tout seul, je pense, j'aurais pu mettre 3 à 4 jours. Là, l'idée était une idée. Alors moi, j'ai toute une liste d'endroits, de pays que je veux traverser en vol bivouac. Et ça faisait partie de ma liste. Et en fait, c'est le club local qui m'a envoyé un mail qui m'a dit « Viens chez nous, j'en reçois très souvent. Viens traverser notre pays en vol bivouac. » Voilà, c'est les passionnés hein, de ce sport-là. Et moi, souvent, je réponds « Bah oui, je viendrai un jour, mais je ne sais pas quand. » Puis là, c'est un moment où j'étais libre. Et j'ai eu l'idée, je dis bah, « Ok, je viens chez vous. » Je rêvais de le faire, donc y aller. Mais je suis tout seul, je n'ai pas envie d'y aller seul. Donc, je propose à quelqu'un de venir avec moi. Et là, ils m'ont dit, ben, nous, on a quelqu'un qui peut correspondre. C'était une championne de Bulgarie, c'était une fille qui est très, très bonne en parapente, mais qui ne connaissait rien, entre guillemets, à l'aventure, c'est-à-dire partir avec sa tente. C'était peut-être la première fois qu'elle dormait en tente de sa vie, qu'elle découvrait ben, comment ça fonctionnait. Et donc, l'échange, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pour ça que j'ai fait ce projet, j'y suis allé. C'est que, un, il y avait l'apprentissage de vivre en nature. Partir seul dans la montagne, conditions de vie, c'est pas les mêmes. Hein, nous, je pars et j'ai rien. Hein, j'ai un pantalon, un short, deux caleçons, deux t-shirts, point barre. Et avec ça, il faut tenir. On est parti pour 15 jours. Il faut tenir. On mange très peu. Le confort de vie, ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. Voilà, donc il faut aller à l'apprentissage de ça. Le stress, la durée du voyage, et surtout entre nous, un gros choc culturel entre les pays slaves et les pays latins. Ouais. Où en fait, on ne fonctionne pas du tout pareil.
Ouais.
Et pour couronner le tout, moi je parle anglais très mal. Bon, je me fais comprendre, voilà, ça fonctionne. Et elle aussi.
Donc
du coup, c'était très folklore. Il fallait qu'on apprenne à se connaître, à tout faire. Et pour moi, c'est une aventure humaine, pure. Ouais. Voilà, c'est pour ça que est-ce qu'il y a l'aventure. Pour moi, l'aventure, ça peut être humain, ça peut être sportif, ça peut être d'exploration, etc. Et pour moi, c'était un mélange entre plus d'aventure humaine, un peu d'exploration.
Ok, génial. Et j'ai vu aussi que tu partais, que tu avais fait beaucoup de pays comme le Népal, le Pakistan, la Mongolie. Qu'est-ce qui t'attire spécialement vers cette région ?
Moi, à chaque fois, je choisis une destination, c'est à 90% pour les montagnes. Je sais que c'est magnifique, c'est beau, j'ai envie d'y aller. Et parfois aussi, comme là par exemple, je pars bientôt en Éthiopie. Je pense que c'est très beau aussi, mais c'est aussi pour aller à la rencontre d'un peuple.
Ouais.
Et d'aller voir les gens. Alors, des expéditions, c'est purement alpinisme ou purement performance, et d'autres, c'est pour un mélange de tout ça.
Ouais.
Et en fait, le parapente, imagine, toi, dans un pays entre guillemets pauvre ou fermé par les médias, ou qui n'ont pas tout ce qu'on a nous, dans les petits villages, t'arrives par le ciel en volant et que tu leur dis que tu vas aller à 1000 km à un endroit qu'ils ont juste entendu parler le nom et c'est l'autre bout du pays. Pour eux, c'est complètement. C'est presque impossible. Ils te prennent quasiment, entre guillemets, pour un demi-dieu. Et tout de suite, ils t'invitent chez toi, tu discutes ouvertement, tu parles, tu te découvres. Et pour ça, c'est absolument génial.
Ouais.
Pour la rencontre, j'adore.
Et du coup, c'est quoi le pays que tu as préféré pour les gens que tu as rencontrés ?
Alors, pour les gens, c'est chaque pays différent, a ses avantages, ses inconvénients. Je ne sais pas si un pays que j'ai préféré que d'autres. Parce qu'il y en a où les gens sont très, très gentils, mais ça reste un peu superficiel, on va dire. Ou d'autres, les gens, non, au contraire, ils sont très profonds, mais ils sont moins rigolés, moins tout ça. C'est que des gens différents. Donc, c'est très dur de dire qu'il y a un endroit qui est mieux que d'autres.
Ouais, bien sûr.
Typiquement, pour les gens qui connaissent un petit peu mieux, pour se rendre compte des choses, si on prend un latin ou un slave, on peut dire, ouais, le slave, il rigole jamais, il est fermé, l'impression que c'est froid et tout. Moi, j'ai tendance à dire, oui, certes. Mais nous, à l'inverse, on est, entre guillemets, je suis désolé du terme, on est faux cul à souhait. Tu connais pas quelqu'un, tu dis bonjour, c'est ton meilleur pote, et tout ça, et ça reste très superficiel.
Bien sûr.
Alors qu'à l'inverse, tu vas dans un pays slave, au début, c'est froid, il se passe rien. Mais dès que tu connais l'autre et t'es devenu un vrai copain, tout est génial. Tu rigoles, tu fais, et tout se passe, donc quelque part, c'est pas faux cul. Donc je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Mais c'est des versions différentes, on peut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, et dans tous les pays, les peuples du monde, pour moi, c'est comme ça. Il faut aller le découvrir, il faut voir qu'est-ce que c'est, et voilà. Mais par contre, j'ai une tendance à dire que les peuples africains, c'est un peu différent, et j'aime vraiment beaucoup ces contrées-là, et chaque pays est vraiment différent.
T'as déjà fait l'Afrique, là ?
J'ai fait pas mal de pays d'Afrique, ouais.
Ouais.
Alors, pas forcément en vol, en vol bivouac, performance et tout ça, mais étant adolescent, j'ai pas mal vadrouillé en Afrique de l'Ouest, tout seul avec mon sac à dos, et j'ai découvert du monde, et c'est assez intéressant, okay. Humainement parlant.
Donc là, tu retournes pour l'Éthiopie, du coup.
Oh, j'y suis allé, en vol bivouac, j'ai fait le Kenya, la Namibie et tout ça, mais voilà, l'Éthiopie sera un peu plus un voyage humain, ouais.
Ok, trop cool. Et c'est quoi il y a un paysage qui t'a marqué un peu plus que les autres?
Ah, c'est comme les peuples, hein, c'est vraiment partout. Pour les paysages, si on veut dire quel paysage de montagne m'a le plus marqué dans le monde, c'est sans souci, c'est le Pakistan. Pour moi, c'est le plus beau pays montagneux du monde. Il y a des montagnes énormes de partout. Pour moi, c'est bien au-dessus du Népal, okay. En termes de beauté. Mais c'est pas pour ça que je veux dire que le Népal est moche. Hein. Ouais, excellent que ça, c'est juste que je mets un cran au-dessus. Après, c'est magnifique, mais il y a plein de pays, c'est... Non, c'est dur de faire en sortir un. Par thème, je pourrais dire lequel je préfère, mais dire quel est le plus beau paysage du monde, non, pour moi, je ne peux pas.
Ok, génial. C'est quoi une bonne journée pour toi?
Dans la vie de tous les jours. En expé ou...
On a dit une bonne journée.
Une bonne journée, non, moi, c'est forcément en expédition. J'adore ça, moi, c'est me lever en nature, seul dans la montagne, quoi, seul ou à deux, je dis seul, c'est avec qui on a décidé de partir en montagne, avoir du beau temps, de prendre le temps, d'être libre de faire ce que l'on veut. Donc souvent, c'est aller voler, se laver un peu, aller dans un petit lac, puis voler, je sais pas, 5, 6 heures, puis trouver un bel endroit et dire, bah, tiens, je vais me poser là, préparer le bivouac du soir, faire un petit feu, regarder les étoiles, voilà, puis recommencer et savoir surtout. Ce qui fait que la journée est belle, c'est savoir que demain sera certainement pareil, et encore après-demain, jusqu'à que moi j'en ai marre. Ouais. Et j'ai pas de limite. Pour moi, c'est la liberté, et ça, c'est une belle journée.
Ah, je t'envie. Et c'est quoi ton pire souvenir?
Pire souvenir. Je pense que c'était une de mes dernières expés au Pakistan. Où c'est une expé qui s'est très mal passée du début à la fin. Bon, j'ai fait plein de choses super, mais dans ma tête, pour moi, ça s'est mal passé parce que dès le premier jour d'expé, je me casse la cheville, voilà. Mmh. Et à un moment d'expédition, en fait, on se retrouve suite à une erreur sur un 7000. On est posé dans la montagne avec un copain, Damien. Mmh. Et en fait, je fais pas mal d'exploration. Enfin, nous, c'est l'exploration du corps et tout ça. Et sur le système d'exploration de l'acclimatation à haute altitude, on a fait une petite erreur et je me retrouve avec un œdème cérébral, voilà, à 7000, quoi, à 6002 ou 6003, je sais plus, bon, peu importe, ça n'a aucune importance. Et on se trouve coincé par le mauvais temps, où moi je peux quasiment plus bouger. Le copain va pas bien non plus, il est meilleur attaque que moi, mais ça va pas. Et on commence à dire, bah ouais, on va peut-être rester là, quoi. On ne pourra pas partir, ça annonce mauvais temps pour les prochains jours. Et on n'y croit pas à la mort, mais on y pense quand même, en disant, bah ouais, peut-être que là, je ne vais pas repartir. Et pour moi, c'était un très mauvais moment, pas pour avoir peur de la mort, mais c'est que le copain, en fait, était papa d'une petite fille qui a 6 mois. Et quand je lui ai proposé l'expédition, c'était avant que je sache qu'il allait être papa, parce que l'expédition, ça se prépare bien avant. Ouais. Et entre-temps, il était papa. Et là, il était très jeune papa, quoi, très jeune non, que papa plutôt d'une très jeune petite fille. Et pour moi, ça m'a traumatisé d'être, quoi, si ça se passait mal, d'y être. Alors, on était très loin de la mort, quoi, assez loin de la mort, mais ce que je veux dire, c'est que ça passe, ça m'a traumatisé parce que, voilà, j'ai plus l'impression d'être responsable que de moi, j'ai l'impression d'être responsable de moi et du copain qui, lui, est papa, et pour moi, ça m'a traumatisé pendant assez longtemps.
Ouais. Ok, c'est hyper touchant ce que tu dis. Il y a un sportif ou un aventurier qui t'inspire?
Je dirais qu'il y en a plein qui m'ont inspiré, surtout dans le passé, et qui m'ont fait rêver et que voilà, j'ai envie de faire. Des aventuriers actuels, il y en a plein.
Dans le passé, si t'as des noms à me citer, j'adore ça.
Ah, moi, dans le passé, moi, c'est plutôt le monde d'alpinisme.
Ouais.
Les Messner, les Kemmerlander, des choses comme ça, qui allaient explorer les. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'exploration, en fait. C'est aller voir ses limites et tout ça, et ils allaient explorer les 8000 sans oxygène et sans assistance, sans Sherpa. C'était vraiment les premiers à faire ça. Et pour moi, d'aller tester ces choses-là qu'on ne connaît pas et on va voir qu'est-ce que c'est, je trouve ça magique. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaie de le refaire, que j'essaie de mélanger l'alpinisme avec le parapente, parce que personne ne l'a fait. Voilà, je vais voir les limites
Ok, bon bah je regarderai un petit peu plus leur travail parce que je connais pas bien. Tu te vois où dans 10 ans, toi?
exactement pareil. Bien clairement, je pense que je ferais plus
des podcasts.
Non, je me vois pas vivre sans être autour du monde, et j'aimerais bien faire un voyage comme ça sans limite, mais sur 10 ans ou 15 ans, voilà, mais plus partir en mixte entre un van, déjà j'aimerais bien parcourir toute l'Europe, toute l'Asie jusqu'au Japon comme ça, et faire une autre partie du monde en bateau, et juste voyager, rencontrer des gens et partir avec son parapente et sur des petites parties.
Ouais.
Un tour du monde sans fin en fait.
Ok, c'est un beau projet. Y a des choses qui pourraient encore te faire peur?
Tout me fait peur.
Ok.
Non, la peur pour moi, c'est ça fait partie de nous. Si on n'a pas peur, il y a très longtemps que je serais mort d'ailleurs. C'est ce qui maintient en vie. Donc ouais, oui, et je veux pas m'enlever ces peurs. Quand j'étais jeune, j'avais peur de tout. Je suis passé au-dessus et maintenant j'ai presque entre guillemets peur de rien. Et je préfère essayer de garder cette peur-là pour me maintenir en vie.
Ouais, donc chez toi la peur c'est un vrai moteur quoi.
Ouais, complètement ouais.
Ok, mais c'est marrant parce que tu vois on parle beaucoup du stress en ce moment, stress au travail, dans la vie de tous les jours, et on oublie qu'en fait c'est un réflexe humain le stress, et qui nous prévient d'un danger. Donc tu vois, si tu te sens pas bien, je sais pas, dans ton boulot, et que ton boulot te stresse, c'est qu'en fait tout simplement tu te sens pas bien et que t'as un signe de ton corps, de quelque chose que ton cerveau essaye de refouler, tu vois. Et du coup, ça m'inspire vachement ce que tu dis, tu vois, d'être aussi connecté à sa propre peur et à son propre stress, quoi. Tu vois. Tout a l'air très connecté à tes peurs, en tout cas.
Ouais, mais moi je dissocie le stress et la peur,
ouais.
Parce que pour moi la peur c'est quelque chose de bon et de formateur, et le stress c'est un petit avertissement ou qui moi me fera pas reculer. Et justement des fois on rentre dans le stress qui dure, et le stress qui dure pour moi est très négatif, et celui-là je le maîtrise pas du tout.
Ouais.
Clairement non.
Est-ce que t'as un plus bel échec?
Le plus gros échec que j'ai eu, mais qui a été très formateur au final, c'était une expé au Népal. On est parti avec un copain de Katmandou dans l'idée d'aller faire un 7002 en autonomie complète depuis Katmandou. C'est-à-dire sans aucun moyen motorisé, sans rien, sans... Tous ceux qui partent sur des montagnes, ils prennent au moins des porteurs jusqu'au camp de base, une logistique pour manger, tout ça. On est partis tous les deux.
T'as des copains qui vivent à Katmandou, toi?
Non, avec un copain depuis Katmandou.
Okay.
Non, il n'y avait pas Katmandou. Et en fait, ça a été une expé, mais catastrophique. Le trek, on avait prévu de, comment on allait parapente, aller dans 2 jours, on est à la montagne.
Ouais.
On a mis quasiment 1 semaine, 10 jours. On a marché, on avait des sacs de 42 kilos, 45 kilos. On a marché pendant 10 jours, on est arrivé épuisé. Et une fois qu'on est arrivé sur place, on a eu à peu près 3 semaines de neige continue. On a quasiment rien fait et on est rentré à la maison sans avoir rien fait.
Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience-là du coup?
Eh ben que ça nous remet toujours à notre place. Hein. Nous on est dépendant de la météo et voilà, hein, elle gagne toujours quoi. Les éléments gagnent toujours, donc si t'as pas un peu de chance, voilà, hein, faut rester humble, tu vis avec, c'est tout. Après, on a quand même fait des choses, hein, cette expédition-là, parce qu'on a vu qu'on pouvait partir justement en autonomie, on pouvait porter des gros sacs, notre système d'aller faire de l'alpinisme avec un parapente fonctionnait, on a pu le tester, et je l'ai refait après. Mais oui, c'est quand même pour prendre des échecs. Et d'ailleurs, c'est le hasard fait les choses, c'est comment on est resté 3 semaines à attendre le beau temps. Tous les jours, tu dis, demain il va faire beau. Puis demain il va faire beau. Ça dure. Et j'ai écrit mon premier livre sur cette expé-là.
D'accord.
Je m'ennuyais tous les jours, donc j'avais une tablette et j'ai écrit mon livre entièrement sur la tablette. Et au final, je trouvais ça assez marrant.
Il s'appelle comment ce livre ?
En vol vers les 8000.
Ok. Et du coup, tu racontes une expédition.
Une expédition d'avant, quoi. 2 expéditions d'avant. En fait, l'expédition, on a rapidement parlé tout à l'heure où j'ai survolé un sommet de 8000 mètres. 8100 et quelques, et la traversée de Nouvelle-Zélande en autonomie pendant 20 jours.
Ok, trop cool. Tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ou est-ce qu'il y a un conseil qui t'a marqué plus que les autres?
Un conseil, non. Moi, tendance à dire qu'il faut écouter ses rêves, il faut essayer de les vivre. Voilà, c'est un peu mon éthique de vie. On me l'a certainement dit plein de fois, mais je sais pas qui pourquoi me l'aurait dit, mais en fait on me le dit souvent, et pour moi je l'ai écouté et je l'ai fait tout le temps, et je pense que c'est important pour son équilibre personnel.
Ok. Est-ce que toi tu fais beaucoup de films, c'est quoi le film que tu as fait dont tu es le plus fier et que t'aimerais bien, si les auditeurs devaient en regarder un, ça serait lequel?
Je pense que c'est mon tout dernier film qui s'appelle Lost in Karakorum. C'est là où je racontais un petit peu où j'ai cru que j'allais mourir sur la montagne avec Damien là. J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est une collaboration à trois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le partage. C'est que moi, je suis plutôt parti dans l'écriture du film global. Ouais. Et Damien, lui, il adorait écrire, mais il voulait écrire toutes les parties internes du film, toutes les blagues, tous les, pas les dialogues, parce que c'est fait sur place, mais comment tourner les choses et comment le mettre en place. On fait venir les intervenants ou on les a calés, tout ça. Et un troisième copain qui, lui, a fait le montage et qui a rajouté sa touche personnelle. Et ça fait que l'ensemble de trois personnes qui travaillent sur un film, mais vraiment en collaboration pure, pour moi, le résultat est assez surprenant.
Ok. Où est-ce que les gens peuvent te suivre là aujourd'hui? C'est quoi le meilleur endroit pour suivre un petit peu ton actu et voir ce que tu fais?
Je pense que c'est peut-être Facebook. Okay. Sur Antoine Girard.
Allez. Bon, de toute façon, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. On arrive à la dernière question de l'épisode. J'ai coutume à chaque fois de demander le nom d'un sportif que tu connais ou que tu connais pas d'ailleurs, dont tu penses qu'il serait un bon invité pour le podcast extraterrien.
Ouais, moi je penserais à Everard Van den Boom, qui est à la fois un sportif, mais surtout un explorateur aventurier, et qui a touché plein de sports, et qui travaille surtout avec la nature, et qui va essayer de découvrir et d'aider voir l'évolution de la nature à des endroits un peu fous dans le monde, et qui emmène plein de scientifiques sur ces endroits-là. Donc c'est pas des exploits sportifs, mais c'est des exploits d'exploration, d'aventure, et de faire avancer la science, et je trouve que c'est très intéressant.
Bah écoute, ça m'intéresse complètement. C'est quelqu'un de francophone ?
C'est quelqu'un qui est français, qui habite à Grenoble.
Ok, super.
Bon, qui habite quelques jours par an.
Je te demanderai le contact et j'essaierai de l'attraper les quelques jours où il sera là. Bon, en tout cas, merci beaucoup Antoine.
Avec plaisir.
C'était vraiment un super plaisir. Et bah écoute, j'encourage vraiment encore une fois tous les auditeurs à te suivre et à regarder ton contenu. Et je te remercie beaucoup pour ton temps. Salut.
Merci, salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.